matin avec Jésus. Je me lève en souriant, des soucis je n'en ai plus. Avec Jésus je vais de l'avant. La richesse est merveilleuse, je suis tous les jours heureux. La prospérité est là, la santé est avec moi. Son espoir est dans mon cœur, je connais le vrai.
Petit coucou à... Vous m'entendez, là? Oui? Un petit coucou à Arthur, Daniel et Sylvie de Suisse. Bonjour! Ah, ça leur fera plaisir. Ah, gloire à Dieu. Nous prions pour eux, en particulier pour Sylvie aujourd'hui. Il y a un petit problème et je suis sûr que le Seigneur va répondre. Amen. Amen. On va lire ce matin dans Zacharie, chapitre 14, verset 7. Ça, Alain va bientôt partir au Burkina Faso, il va redire tout bronzé, on va être jaloux. C'est bien, que Dieu le bénisse là-bas, ça va être bien. Zacharie 14, 7. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Vous savez, l'esprit de prophétie, c'est quelque chose de tout à fait particulier. On ne lit pas une prophétie, on n'écoute pas une prophétie comme on écoute une histoire. Il y a des choses qui sont projetées dans le temps. C'est un petit peu comme un prophète, il regarde un tableau et puis il va décrire le tableau. Sur le tableau, en premier plan, vous avez un arbre, un ruisseau. Derrière, vous avez une montagne. Mais le prophète, il va vous décrire... aussi bien la montagne, puis tout d'un coup il va revenir sur l'arbre qui est devant, et puis après il va vous parler de ce qui est caché derrière la montagne, puis après il va revenir sur le petit ruisseau. Tout ça pour vous dire qu'il y a plusieurs accomplissements dans une prophétie, et ce n'est pas toujours sur un même plan. Donc il faut bien comprendre la prophétie avec l'esprit de prophétie, qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est l'esprit de prophétie. Donc, ce matin, on va regarder ce texte et je vais faire cette déclaration, c'est que les ténèbres ne peuvent pas enfermer éternellement dans les mystères les intentions de Dieu. C'est les ténèbres qui ont enfermé les mystères, dans des mystères, ils appellent ça des mystères, les intentions de Dieu. Maintenant, la lumière commence à poindre et à nous dévoiler le cœur de Dieu, mes frères et sœurs. La lumière qui brille vers le soir... Nous en arrivons au soir de l'histoire de l'Église, c'est la fin. Nous savons que c'est bientôt la nuit qui va venir, c'est bientôt 7 ans de grande tribulation qui vont arriver sur la terre. Et la lumière qui brille là vers le soir, alors que pendant des siècles et des siècles, c'était quand même des ténèbres dans l'histoire de l'Église. Et puis petit à petit, la lumière vient et de plus en plus. Et maintenant, cette lumière qui brille vers le soir vient pour nous dévoiler les désirs de Dieu, son grand plan, ses résolutions, beaucoup de choses. Et pourquoi cette lumière apparaît-elle maintenant? Ben cette lumière, c'est Jésus qui s'approche, mes frères et sœurs. Le signal a été donné, la voix de l'archange se fait entendre, et Jésus s'approche, il est dans la nuée des témoins, Il est dans cette nuée qu'il a dérobée aux yeux de ses disciples alors qu'ils étaient là sur cette montagne et que Jésus leur disait ses dernières paroles. Tout à coup, Jésus s'est élevé au ciel et une nuée les déroba à leurs yeux. Vous trouvez ça dans Actes chapitre 1, verset 9. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les disciples là? Eh bien, ils regardaient vers le ciel parce qu'ils avaient vu Jésus monter comme ça et puis tout à coup cette nuée qu'il a dérobée. Alors ils regardaient vers le ciel et là, deux hommes vêtus de blanc leur sont apparus et ils ont dit « Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Actes 1, 10, 11. Il est parti du milieu de vous, il reviendra au milieu de vous, mais de la même manière qu'il est parti. Jésus, mes frères et sœurs, il est la lumière du monde. Et aujourd'hui, alors que nous sommes au soir de l'histoire de cette humanité, visitée par Jésus-Christ, puis par l'Église, eh bien cette lumière, elle apparaît selon la prophétie du prophète, du grand prophète Zacharie, qui avait dit « Vers le soir, la lumière paraîtra ». Cette lumière qui paraît, c'est Jésus qui est en train d'apparaître. C'est-à-dire, Jésus, c'est la parole. C'est la parole qui revient au cœur de ceux qui cherchent. C'est la parole qui est en train de revenir au cœur de ceux qui soupirent après le retour de Jésus. C'est la parole, c'est Jésus qui s'approche de ceux qui, avec l'Esprit, disent « Viens, Seigneur Jésus !» Amen. Nous, on ne le voit pas encore dans les nuées du ciel, non, mais il approche et s'approchant, la lumière devient de plus en plus forte. Il approche et nos esprits sont de plus en plus éclairés parce que c'est une affaire d'esprit. Nos esprits sont de plus en plus éclairés par la lumière de la connaissance qui augmente positivement. Où augmente-t-elle positivement? Elle augmente positivement là où l'amour augmente aussi positivement. Là, parce qu'il faut faire attention, la connaissance augmente, mais la charité du plus grand nombre se refroidit. Il faut que la connaissance et la charité demeurent au même niveau, sinon la charité au-dessus. Et cette connaissance, la lumière de la parole révélée, elle augmente de plus en plus positivement parmi ceux qui s'aiment vraiment, qui font un effort de renoncer à eux-mêmes pour pouvoir être au service des autres. Oui, mes frères et sœurs, c'est un moment important de l'histoire de l'humanité. Tous les prophètes qui sont venus sur cette terre ont annoncé des choses extraordinaires. Jean-Baptiste, Jésus a dit qu'il était plus qu'un prophète parce que ce qu'il avait à dire et à démontrer était extraordinaire. Mes frères et sœurs, nous sommes plus aussi qu'un prophète. Nous sommes la voix de l'archange. Quand je dis nous, ce n'est pas seulement nous au sanctuaire, mais c'est tous ceux qui ont conscience par le Saint-Esprit que Jésus revient. Nous sommes comme ce Jean-Baptiste, en quelque sorte, plus qu'un prophète, parce que le message que nous annonçons est des plus importants. Jamais une chose aussi importante est arrivée sur la terre, sinon la première venue de Jésus. Et maintenant, on est en train de parler de la deuxième venue de Jésus. Et on n'est pas en train de dire quelque chose qui va arriver dans deux siècles ou trois siècles. Là, je lisais hier dans le journal qu'en France, ça commence à bourronner en dessous du territoire. Est-ce que vous avez lu ça? Il y a même des lacs qui commencent à faire des bulles. Vous avez vu ça? Parce que dessous, il y a du magma et ça bouge. Alors, il y en a qui disent, ça fait 12 000 ans que ce n'est pas arrivé. Normalement, ça devrait arriver bientôt. Ça va sauter, ça va trembler, ça va bouger. Il va y avoir des éruptions volcaniques. Puis d'autres disent, mais non. On n'est sûr de rien avec eux. Mais on peut en tout cas être sûr avec Jésus. Quand il dit une chose, il l'accomplit, il le fait. Et nous ne sommes pas en train de nous tromper nous-mêmes quand nous disons que Jésus revient pour notre génération, mes frères et sœurs. On n'est pas en train de se raconter des histoires. C'est la réalité, les signes sont là. Jésus a dit, instruisez-vous par cette comparaison. Alors il nous donne des comparaisons avec le figuier, toutes ces choses-là. Et nous savons maintenant que c'est bientôt qu'il revient. Amen. Quand Jésus apparaîtra finalement, nous serons enlevés avec lui, parce que quand il viendra la première fois dans les nuées du ciel, il ne posera pas les pieds sur la terre. C'est nous qui serons enlevés dans cette nuée de témoins. Je vous rappelle que c'est la nuée de témoins, ce n'est pas des nuages. Et sur la terre, personne ne verra ça, personne ne verra Jésus sur les nuées du ciel, personne. Préférant les ténèbres, il ne voit pas la lumière qui est en train d'apparaître à cette heure tardive de l'histoire. Il ne la voit pas. Nous la voyons. Eux ne la voient pas. Ils ne se rendent pas compte. Ils ne voient pas. Alors comment pourraient-ils voir Jésus? Ils ne voient même pas Jésus qui est en nous faisant des miracles. Ils ne le voient même pas. Jésus a dit, depuis le temps que vous me voyez et vous demandez encore que je vous montre le Père, mais le Père et moi, nous sommes un. Et il demande de voir Jésus, il demande s'il existe. Et quand, au nom de Jésus, nous faisons des prodiges, des miracles, des choses qui défient l'imagination, ils ne le reconnaissent même pas. Ils sont un peu émus, ils versent une larme, puis ils rentrent chez eux, puis c'est fini. Ils ne le voient pas parce qu'ils aiment les ténèbres. Alors, ils ne le verront pas non plus quand il viendra sur les nuées du ciel pour enlever son épouse. Ils ne le verront pas. Par contre, ils verront leur faux Christ, ils verront leur faux oint, ils verront l'Antichrist. Et comme ils sont habitués à aimer ce qui est sombre, habitués qu'ils sont à aimer les ténèbres, eh bien, mes frères et sœurs, ils reconnaîtront là leur maître et le prince des ténèbres, ils l'appelleront lumière. Vous voyez la confusion? Comme l'apostasie est un processus qui est déjà enclenché, alors ils appelleront lumière ce qui est ténèbres. C'est dans la logique spirituelle des choses. Ils aiment Satan, ils croient que c'est Dieu. Pendant les 7 ans qui suivront l'enlèvement de l'épouse, il n'y aura pas de lumière, ils seront sans aucune lumière, sans la présence du Saint-Esprit. Ceux qui sont de Dieu, qui seront restés sur la terre, seront visités par des anges qui voleront dans le ciel et qui donneront un message. Eux ne le verront pas. Mais les chrétiens qui auront été charnels et qui ne seront pas enlevés, eux pourront écouter et entendre ces messages qui les encourageront. Mais les autres, ils persécuteront les chrétiens et qui n'auront pas été enlevés. D'ailleurs, ils commencent déjà drôlement à le faire. Vous savez, en tout, il y a les prémices. Et là, on voit le diable se déchaîne de plus en plus. Encore ce matin, je regardais aux informations au Nigeria. Mais c'est effrayant ce qui se passe là-bas. Ils massacrent les chrétiens dans les églises. Quand je dis « ils », c'est qui « ils » ? C'est des groupes fanatiques islamistes qui font ça. Je suis désolé, mais il faut le dire, il faut dénoncer l'ennemi, il faut l'identifier. Je ne dis pas que tous les islamistes sont des diables, mais dis donc. Ils persécuteront les pauvres chrétiens qui n'auront pas été enlevés. Et ce qui est en train de se passer là-bas au Nigeria, excusez-moi l'expression, mais c'est une aimable répétition générale de ce qui va arriver pendant les 7 ans. Si la lumière est en train de paraître aux yeux de ceux qui sont de Jésus, les ténèbres sont en train de s'épaissir autour des autres. C'est vrai, mes frères et sœurs. Et à la fin de ces 7 ans, voilà qu'une lumière éblouissante apparaîtra. Alors là, tout œil le verra, tout genou fléchira devant lui. Jésus sera là. Entre ciel et terre, dans cette nuée de témoins, dans le ciel, et il descendra sur la terre, et il posera ses pieds où ça? Pas à Sarcelles, hein? Sur le mont des Oliviers, amen. Sur le mont des Oliviers, Zacharie a dit, ça sera un jour unique. En tout cas, la version française dit, hein, la seconde, ça sera un jour unique. Mais moi, je vous dis autre chose. Le texte, il dit pas ça. Ne vous laissez pas troubler par les théologiens. Le texte ne dit pas ça. Le texte, il dit, ce sera le jour 1. Ça change. Pas le jour unique, pas un jour unique. Quand on dira, ah, c'est un jour unique. Oh ouais. Le concert de Sylvie Vartan à Pleyel, c'est un jour unique. Tu parles. C'est un jour unique. C'est pas ça le texte, vraiment. C'est, ce sera un jour, ce sera le jour 1. Allez voir la Chouraki. Il y a quelques jours, on a fêté le Nouvel An, et partout dans le monde, on s'entend pour dire qu'on est en 2012. Voilà. On compte ce jour comment? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on dit 2012? Par rapport à Napoléon? Par rapport à qui? Par rapport à Jésus. Mais quand Jésus reviendra, il établira son règne. On jettera le calendrier humain à la poubelle et on comptera tout à partir de ce jour-là. Ça sera le jour 1. À partir du jour du retour de Jésus, ça sera le jour 1. Et il y aura un nouveau calendrier qui sera établi, un calendrier de 1000 ans qui sera édité. Parce que Jésus va venir régner 1000 ans sur cette terre. Oh, ça sera pas rigolo pour ceux qui voudront se rebeller. Il viendra avec une verge de fer. Alors quand vous me dites, Michel, j'entends, tu es dur. Oui, je suis dur, mais vous avez encore rien vu du tout. Parce que celui que vous croyez être le doux Jésus, oui, il est le doux Jésus aujourd'hui parce qu'il est miséricordieux. Mais quand il reviendra pour régner, hein, ça va être terrible. Ça sera de nouveau la loi du talion qui va être rétablie. œil pour œil, dent pour dent. Et frères et sœurs, la nuée qui a dérobé Jésus aux yeux des disciples, c'était la nuée de témoins dont Paul nous parle dans Hébreux chapitre 12, c'est-à-dire tous ces hommes et ces femmes de Dieu qui nous ont précédés et qui étaient là pour accueillir Jésus qui revenait au ciel. Il y a deux anges qui sont venus et qui ont dit que comme il est parti, il reviendra. Alors je dis, cette nuée sera là aussi, mais cette nuée sera plus importante encore. Parce qu'elle sera, elle aura été enrichie de la présence de l'épouse de Christ. Est-ce que vous serez là, dans cette nuée? Avez-vous reçu le témoignage que votre cœur est agréable à Dieu? Parce que mes frères et sœurs, juste avant qu'Enoch ne soit enlevé, il a reçu de Dieu le témoignage qu'il lui était agréable. Vous trouvez ça dans Hébreux 11, 5. Il vous faut ce témoignage par le Saint-Esprit dans vos cœurs pour pouvoir être enlevé. Lavez-vous. Lavez-vous. Il ne suffit pas de connaître que voilà, il va y avoir un enlèvement. Pour avoir ce témoignage, Enoch a marché avec Dieu. La Bible nous dit, il marcha avec Dieu puis ne fut plus car Dieu l'enleva. Qu'est-ce que ça veut dire marcher avec Dieu? Le mot pour marcher, dans ce texte-là, au sujet de « il a marché avec Dieu », c'est le même mot qui est employé dans Genèse 17, 2, au sujet d'Abraham, quand Dieu dit à Abraham « marche devant ma face et sois intègre ». Frères et sœurs, marcher devant Dieu, face à la lumière, face à Dieu, tu marches avec Dieu, tu marches dans la présence de Dieu, tu avances au plus près possible de Dieu, c'est-à-dire c'est, ton caractère est formé de plus en plus à l'obéissance, à une identification avec ton époux, avec ton Seigneur, tu t'avances vers Dieu et il dit, mais attention, sois intègre. Pourquoi il te recommande d'être intègre? Parce qu'il a peur que tu ne sois pas intègre? Non, il te recommande d'être intègre parce que ça ne va pas être facile. Pourquoi ce n'est pas facile? Mes frères et sœurs, Job était l'homme le plus intègre de son époque. Regardez comment Dieu a fait avec lui. L'homme le plus intègre. La main de Dieu s'est appesantie sur lui. Vous croyez que parce que vous marchez devant Dieu, ça va être facile et que vous n'aurez aucune difficulté? Non, si vous marchez dans la présence de Dieu, eh bien, la main de Dieu va s'appesantir sur vous et alors Dieu va vous dire, mais attention, sois entier, sois intègre dans les moments de difficulté là. La main de Dieu s'est appesantie sur Job, non pas pour le juger, mais pour le purifier encore plus. En vue d'une vie qui porte encore plus de fruits. Voilà pourquoi la main de Dieu s'est appesantie sur Job. Mais marcher avec Dieu comme Enoch, marcher avec Dieu comme Abraham, marcher avec Dieu comme Jacob ou comme Job, tout ça, eh bien, ça n'est pas la facilité, mes frères et sœurs. Je marche avec Jésus, je marche avec Jésus. C'est pas facile, c'est le chemin le plus difficile que vous avez choisi. Alors soyez entier. La main de Dieu va s'appesantir sur vous. Dieu laissera les gens, Dieu laissera les circonstances, Dieu laissera Satan même s'attaquer à vous. Et tu vas souffrir en faisant la volonté de Dieu. Tu vas souffrir en faisant la volonté de Dieu, non pas parce que tu pèches. De toute façon, on souffre sur cette terre. Nous devons de toute façon souffrir. Alors, que ce soit en faisant le bien, c'est quand même mieux qu'en faisant le mal, non? Marcher avec Dieu, c'est accepter ce qui arrive. Il y avait un chant, c'était quand j'étais tout nouveau converti, c'était en 68. C'était, comment ça allait déjà? Ça chantait, ça disait... Sourions, sourions, le chrétien prend tout, il accepte tout. Sourions, sourions, le chrétien prend tout par le bon bout. Vous vous rappelez pas de ça? Allez, on essaie de le chanter. Sourions, sourions, le chrétien prend tout, il accepte tout. Sourions, sourions, le chrétien prend tout par le bon bout. Oui, c'est un joli petit chant, mais voilà. Il y en avait un autre, il disait aussi, s'il faut traverser le brûlant désert, je suis plein de confiance. Un jour, j'étais dans un désert. Alors, je me suis rappelé de ces petites grand-mères gentilles, là, à Lausanne, dans l'église de Pentecôte, avec leur petit chapeau et leurs petits gants et tout ça. Et elles chantaient « S'il faut traverser le brûlant désert ». Je les imagine dans ce brûlant désert, les pauvres grand-mères. Voilà, c'est une image du désert, mais c'est brûlant le désert, c'est terrible. Alors on peut chanter des jolies mélodies comme ça sans vraiment réfléchir à ce qu'on dit. Je ne dis pas que ces grand-mères ne réfléchissaient pas à ce qu'elles chantaient, mais je dis simplement il faut réfléchir à ce qu'on chante. C'est terrible. Eh bien, si tu veux marcher dans la face de Dieu, eh bien, c'est dans un brûlant désert que tu vas marcher. La main de Dieu va s'appesantir sur toi parce qu'il émonde tout ce qui porte du fruit, afin qu'il porte encore plus de fruits. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors réjouis-toi dans tes épreuves. C'est difficile. Oui, bien sûr, c'est difficile de se réjouir dans nos épreuves, bien sûr. Mais c'est comme ça. Et de toute façon, c'est comme ça. C'est terrible, mais c'est comme ça. Qui n'a pas passé par des épreuves? Et il y en a qui disent, oh Michel, tu... Oui, bon, ben, si vous voulez, on va passer une journée, je vais vous raconter mes trucs. D'ailleurs, c'est pas rigolo non plus. Et ben voilà. Mais c'est parce que je marche avec Jésus. Voilà. Marcher avec Dieu, c'est accepter ce qui arrive. Et c'est passer victorieusement les épreuves. Marcher avec Dieu, c'est faire des erreurs comme Abraham, mais s'en repentir toujours. Marcher avec Dieu, c'est bénir et pas maudire. Ah, ben des fois, je suis tenté de maudire, hein. Quand je vois certains trucs, quand je sais qu'on a le pouvoir de le faire, des fois ça me démange. C'est progresser dans l'abondance de tout, marcher avec Dieu. Aussi bien dans l'abondance de problèmes que dans l'abondance de solutions. L'autre jour, j'ai vu un petit dessin des Shadow qui disait, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Les Shadow. Marcher avec Dieu, c'est progresser dans l'abondance de tout. Matériel, mais aussi dans l'abondance de disettes, dans l'abondance de tout, de problèmes, de solutions, de tout. C'est obéir aux ordonnances. C'est ne pas faire notre volonté personnelle, notre moi, je pense que. C'est ne pas se détourner de lui jour après jour, après jour, après jour, après jour, après jour, après jour. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Il y en a qui disent qu'en 2012 c'est fini, j'espère que c'est vrai. Ça serait super, hein? Amen. Mais non, c'est pas fini. Rien que pour les embêter, ce ne sera pas la fin du monde en 2012. Mais non, ce n'est pas possible, c'est impossible. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais ce ne sera pas la fin du monde en 2012. Donc, marcher avec Dieu, c'est montrer aux croyants, montrer aux soi-disant croyants, montrer aux incroyants, montrer aux anges, montrer aux démons, montrer à la nuée des témoins que nous sommes des fils et des filles de Dieu, montrer à toute la création que nous sommes de la race divine. Amen. Tout le monde n'y est pas, hein? Il y a les fils du serpent. Les fils du serpent, ils sont pas comme on voit dans les films avec des têtes de reptiliens, là. Mais c'est pas ça, ça, c'est des films pour nous amuser. Où il y a des fadins, enfin, pardonne-moi Seigneur, il y a des gens qui croient qu'il y a des reptiliens sur la Terre qui ont des yeux bizarres. Vous avez vu sur YouTube, on voit des trucs. C'est pas ça les reptiliens. C'est des fils du serpent, faire attention. Mais ils sont comme vous et moi, on les reconnaît pas tout de suite, hein. Il faut leur prouver à ces croyants, ces soi-disant croyants, ces non-croyants, ces démons et tout ça, que nous sommes prédestinés à la vie éternelle. Marcher avec Dieu comme Enoch, c'est prouver par notre comportement que Jésus vit en nous. Voilà. Qu'il agit par nous. Qu'il aime par nous. Qu'il pardonne au travers de nous. Qu'il console au travers de nous. Qu'il touche les malades par nous. Qu'il encourage par nous. Qu'il exhorte, qu'il reprend par nous. Qu'il sourit, qu'il pleure par nous. Qu'il rigole aussi par nous. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Amen. Voilà. Enoch, pour avoir marché avec Dieu, a reçu, juste avant son enlèvement, le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Ouh. Peut-être vous croyez au libre arbitre. C'est bien. Continuez. C'est super. Voilà, c'est bien. Mais, alors, choisissez d'obéir à Dieu, puisque vous croyez au libre arbitre. Choisissez d'obéir à Dieu. Et puis si vous croyez que tout est écrit, eh bien faites la preuve de qui vous êtes. Montrez par vos œuvres que vous êtes fils et filles de Dieu. Vous allez me dire, ça se ressemble. Oui, de toute façon, on fait des choix. Mais ce sont pour nous qui croyons que Dieu a tout écrit, des choix qui sont déjà écrits et que nous faisons ici-bas. Vous avez écouté la prédication de vendredi soir, vous avez vu, ils avaient la même sagesse, les Esséniens. Ils croyaient que Dieu avait créé un plan parfait et que l'homme, quand il vient sur cette terre, il accomplit ce plan sans s'en détourner aucunement. Nous sommes en 2012. La lumière du soir éclaire ce que les charnels appellent des mystères. Ah, c'est un mystère. On ne peut pas savoir. Il ne faut pas sonder ces choses. C'est trop. C'est des mystères, vous comprenez? On doit accepter par la foi. Ah bon? Croyez ce que Dieu montre. Croyez ce que Dieu révèle. Croyez ce que Dieu met en lumière à l'heure du soir. C'est pour avoir toujours rejeté la parole que les gens ont piétiné, ont raté de faire ce qu'ils devaient faire, d'être ce qu'ils devaient être. De ce qu'ils devaient être, plutôt. Vers le soir, la lumière paraîtra, c'est ce que le prophète avait dit, et elle est là. Elle brille. Il faut oser la regarder. Il faut oser plonger nos yeux dans la lumière. Au début, vous risquez d'être un peu ébloui, disant, je vois rien du tout. Je ne comprends pas, je vois rien, je vois pas. Et puis vos yeux spirituels vont s'y faire. Vous savez, quand Jésus est venu la première fois, il était la lumière du monde, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Pourquoi? Ils avaient leur raison. Ils avaient leur raison, c'était discutable. Eh bien, il en sera de même lors de la deuxième venue de Jésus sur les nuées du ciel, quand il viendra pour nous enlever. Par contre, quand il reviendra visiblement, 7 ans après l'enlèvement, quand il reviendra visiblement, de façon à ce que personne ne puisse émettre le moindre doute ou dire « ça ne correspond pas à la doctrine de ma religion ». J'espère qu'il va faire quelque chose qui ne correspond pas à la doctrine de la religion. J'espère qu'il va faire encore un coup d'éclat là. Eh bien, quand il apparaîtra visiblement, tout genou fléchira devant lui. Et il vaut mieux fléchir nos genoux maintenant, mes frères et sœurs, aujourd'hui. Maintenant, la lumière, elle paraît. Maintenant, Jésus paraît de plus en plus clairement. C'est-à-dire, la parole de Dieu devient de plus en plus claire pour ceux qui s'inclinent dans le respect, en disant, Seigneur, je manque de sagesse, éclaire-moi afin que je comprenne, que je sache. Alors, instruisez-vous de ces choses, mes frères et sœurs. Plongez vos regards, comme nous montre le petit vitrail qu'on a fait là, pour notre âge. La lumière paraît. Instruisez-vous de ces choses. Ce sont les dernières gouttes d'huile qui sont ajoutées à votre réserve. Ne les manquez pas, mes frères et sœurs. Le diable, comme Pharaon autrefois, eh bien, il nous suroccupe. Mais j'ai tellement de choses à faire. Mais j'ai tellement de travail. Mais j'ai tellement de choses. Mais les Juifs aussi, Pharaon a dit, ben tiens, pour les empêcher de penser à leur libérateur et à toutes ces histoires de Dieu et machin, on va leur donner encore plus de boulot. Voilà. C'est un esclavagiste. Eh bien, aujourd'hui, c'est la même chose. Eh bien, plongez vos regards, vos cœurs dans les choses saintes. Ainsi, vous résisterez au diable, vous résisterez au pharaon actuel. Et il sera bien obligé de fuir devant vous, mes frères et sœurs. Soyez des gens de lumière, les gens de la lumière du soir. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus pour ces choses. Merci de nous donner toutes ces choses, ce privilège que nous avons de comprendre ces choses. Je te prie, mon Dieu, que mes frères et sœurs, dans les difficultés qu'ils traversent maintenant, relèvent la tête en disant, oui, bon, c'est normal, je ne vais pas me plaindre, je vais simplement compter sur mon Dieu. C'est un temps, toute chose passe et je sais que le temps vient maintenant où tu vas paraître et où tu vas enlever ton église. Je vais être prêt. Je me souviens, mon Dieu, que tu as dit aussi que l'église est comme une femme qui est en train d'accoucher. Et devant cette femme, juste à l'endroit où elle est en train d'accoucher, il y a le dragon qui est là et qui attend que cet enfant sorte pour le dévorer. Eh bien, c'est vrai que nous avons de la peine à sortir des idées religieuses, à sortir de l'Église, à sortir de ce qui est de ce qui nous a conçu en fait l'Église, et on est quand même assez plus ou moins confortable dans l'Église. Mais Dieu nous dit que maintenant c'est l'heure de sortir. Mais nous avons peur aussi parce que nous savons que dehors il y a le dragon qui nous attend. Mais nous voulons quand même sortir parce que dans l'Apocalypse il est dit qu'au moment où l'enfant est sorti, il a été enlevé au ciel et le dragon n'a rien pu faire. Seigneur Jésus, je veux vraiment compter sur toutes ces paroles. Je veux compter sur ces paroles et manifester ce que tu veux que je manifeste sur cette terre. Et je te prie pour tous ceux du sanctuaire et pour que ce soit la même chose pour chacun. Et pour tous ceux qui viennent à la chapelle. Et pour tous ceux qui écoutent sur Internet. Et pour tous ceux qui regardent le film à la télé. Je te prie que cela soit la même chose pour chacun. Qu'ils plongent les regards dans ta parole afin de la mettre en pratique jour après jour après jour. Au nom de Jésus. Amen.